Bonjour à tous. Le LEM Sport reçoit aujourd'hui le journaliste et éditorialiste Daniel Riolo. Merci Daniel d'avoir accepté notre invitation.
Salut à tous.
Alors Daniel, on va revenir en particulier avec toi aujourd'hui sur le magnifique parcours du Stade Brestois. Les hommes d'Éric Roy vont terminer troisième de Ligue 1 dimanche soir à l'issue du dernier match face à Toulouse. Qu'est-ce que tu retiens en particulier de ce parcours qui s'annonce historique? Et est-ce que si on devait mettre en lumière une seule chose, ce serait avant tout, selon toi, le parcours de l'entraîneur Éric Roy, qui dénote après 11 ans sans avoir coaché notamment.
C'est difficile de savoir ce que tu dois mettre en avant. C'est tellement étonnant, tellement surprenant, tellement incroyable. Je pense qu'évidemment, personne n'avait prévu une chose pareille. Par un supporter, même parmi les plus optimistes, on dit toujours que les supporters, c'est les gens les moins optimistes, les moins lucides. Et effectivement, je pense qu'ils s'attendaient à jouer le maintien et que même le plus fou d'entre eux n'imaginait pas se retrouver en Ligue des Champions un an après. Surtout quand on sait que quelques mois plus tôt, le club était dans une situation critique. Mettre en avant Éric Roy, oui, bien sûr, je pourrais le faire, tout le monde l'a dit, c'est fantastique, mais je pense que c'est tout un club, le travail de Greg Laurenvy, bien sûr, les joueurs. Après, là, pour l'instant, on est dans la phase de plaisir, de joie, d'émotion. Après, on ne sait pas, il y a beaucoup de championnats où il y a des équipes surprises. Ça, c'est vrai. Et je crois qu'il faut profiter du moment parce que tu ne sais jamais sur quoi ça va déboucher. Est-ce que tu es dans une saison où tout le monde a surperformé et tout le monde va s'écrouler l'année prochaine? Bon, alors dès que je dis ça, évidemment, tout le monde va avoir peur et va dire, ouais, mais pourquoi ils nous parlent de ça? Pour l'instant, on kiffe et tout. Alors, c'est vrai. Donc, restons dans le présent. J'ai vu un entraîneur qui maîtrisait parfaitement son effectif. J'ai vu un effectif qui a semblé bien meilleur que ce à quoi on s'attendait. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs, je savais même pas qu'ils pouvaient avoir ce niveau. On a eu des révélations. On savait que Doumbia était un bon petit joueur. Là, c'est devenu un vrai bon joueur. Restera-t-il ou pas? Ça va être une des grandes questions, parce que évidemment, dans les grands débats à venir, il va y avoir ça à Brest. C'est qui reste, qui part. Des attaquants, pareil, qu'on pensait des joueurs moyens de Ligue 1, qui ont fait des super saisons. Des révélations comme l'arrière gauche, Bradley Locco. Enfin voilà, ils ont tous fait une saison absolument extraordinaire. Et il faudra confirmer. Et le truc en plus, c'est qu'il y a eu beaucoup d'équipes dans le passé qui ont fait des beaux parcours comme ça, un peu étonnants. C'était pas forcément toujours en jouant en aussi beau football. Là, il y avait une vraie maîtrise collective. Il y a eu des matchs incroyables. Je crois que le meilleur, malheureusement, c'est celui perdu à Lyon. Justement, j'ai trouvé dingue ce match.
Oui.
Très souvent, Brest a bien joué. Brest a bien joué, même contre le PSG, c'est dire. Ils ont réussi à afficher un très bon niveau en termes de jeu, sans jamais bétonner ou attendre. Pendant des années, j'ai entendu, pendant que Blanc était entraîneur du PSG, mais même pendant que Emery ou Tourelle ou Park ont bétonné à 100% et qui disaient, on peut pas faire autre chose, on peut pas faire autre chose, sinon on va en prendre neuf. Bon, bah voilà, Brest cette année a montré qu'on pouvait faire autre chose. Voilà, j'ai toujours été convaincu qu'on pouvait. Donc, je vois que des choses positives, quoi, dans cette saison de Brest. Ça a été fantastique.
Durant cette saison extraordinaire, il y a des individualités qui se sont fait remarquer. Pardon, on pense à Pierre Lesmélou, à Camori Doumbia, à Bradley Locco, tu as pu l'évoquer. Qui est le joueur qui te procure le plus de plaisir à titre personnel? Quelle individualité te fait dire waouh, c'est le frisson, je ne m'y attendais pas.
Bah, le frisson, je sais pas, parce que c'est plus passé, je pense, par un jeu collectif. Mais évidemment que les prestations de Del Castillo m'ont enthousiasmé, celle de Doumbia, qui est pas toujours titulaire d'ailleurs, hein, enfin, je pense que vous le savez mieux que moi, mais qui a un vrai truc, qui a un vrai bon joueur de foot. Et évidemment que le côté organisation de Lesmélou, le côté milieu de terrain, qui est chef d'orchestre, c'est très intéressant aussi. Il y en a plusieurs, ouais, ces trois-là que j'ai envie de citer. Mais après, j'aimais bien le côté combatif de Satriano devant. J'ai bien aimé Locco, enfin, tous, et puis votre capitaine, quoi. Non, vraiment, tout, je sais pas, c'est difficile parce que vraiment, c'est collectivement que Brest a été impressionnant cette année.
Le fait d'avoir du mal, comme c'est le cas ici, à ressortir réellement une individualité malgré des qualités indéniables, ça prouve la force du collectif.
Bien sûr.
C'est quelque chose, on le sait, qui te tient à cœur dans tes analyses. Je me souviens que à l'issue du match contre Lyon, dans tes 3 points, tu as évoqué une comparaison avec l'Atalanta Bergame. C'est peut-être fort comme comparaison, mais avec quel genre d'épopée tu arriverais à ranger Brest sur un plan historique et peut-être sur un plan européen?
Bah, ça, je sais pas, mais effectivement, ça me rappelait, cette comparaison, en fait, c'était parce que le côté collectif, le côté pressing, tous ensemble, et puis la volonté toujours de jouer vers l'avant, de porter le ballon. Eric Roy dit toujours, il faut que ça se termine par quelque chose, nos actions. C'est pour ça que je pensais avait dit ça. Maintenant, je sais pas si en Ligue 1, là, comme ça, en tête, des équipes qui ont été surprenantes à ce point-là, franchement, j'ai pas souvenir qu'il y en ait eu, quoi. Les équipes comme Brest, souvent, ça s'est écroulé, ça n'a pas tenu. On a eu des bons, des, parce que, tu vois, je vais pas parler de Lens, parce que Lens, c'est quand même un peu plus gros que Brest, tu vois, et puis ils avaient fait d'abord une première saison intéressante, puis ils ont confirmé avec la deuxième place. Donc, c'est pas exactement pareil. Brest, là, ça sort de nulle part. Il peut y avoir Montpellier, l'année où Montpellier est champion. L'année où Montpellier est champion, mais c'était pas, bah si, le fait d'être champion, c'est forcément enthousiasmant, surtout que c'était avec le PSG, même s'il était en construction. Ouais, ça peut ressembler à ça, ouais, mais ouais, ça peut ressembler à ça, parce que ça jouait pas mal aussi, Montpellier. Ouais, je vous souhaite pas le même destin. Ils sont allés en Ligue des Champions, chapeau 4, quatrième du groupe, au revoir tout le monde. Et derrière, c'est retourné à l'anonymat.
Oui, c'était
Bon.
retombé comme un soufflet, comme tu l'expliques.
Bah, c'est souvent le cas, hein.
Oui, c'est le danger,
Mais
même
cette
si.
année, si tu regardes Gironde, ça joue super bien au foot et tout, ça peut ressembler à ce que vous faites. Tu regardes Bologne, ça joue super bien au foot, ça ressemble un peu à ce que vous, à ce qu'a fait Brest aussi, hein. Cette année, c'est l'année des surprises, hein.
Oui.
Autant Aston Villa, bon, ok, c'est un peu un plus gros club, mais c'est quand même une surprise aussi. Il y a eu des surprises partout, quoi, championnat.
Il y a notamment Stuttgart également en Allemagne. Il y a cette saison qui détonne dans l'histoire du Stade Brestois
Ouais.
29. Quel regard tu portais sur ce qu'était ce club, sa gestion ces dernières années, ses résultats, et même d'un point de vue plus général, qu'est-ce que tu mettais en avant quand tu parlais du Stade Brestois avant ce championnat 2023-2024?
Bah, très honnêtement, on n'en parlait jamais parce que Brest, il y avait eu une bonne période avec Dall'Oglio, une bonne série de matchs et tout. C'était les débuts de Lorenzi. Non, le seul truc qu'on mettait en avant, c'est qu'il y avait un bon directeur sportif qui voulait travailler proprement, correctement, qui était intelligent dans ce qu'il faisait, qui voulait installer le club en Ligue 1 parce qu'en fait, c'était l'installation du club en Ligue 1 la mission. Parce que Brest avait plus un profil Ligue 2 ces dernières années. Il y a c'est un stade de Ligue 2. Des finances de Ligue 2, il y avait tout qui correspondait plutôt à ce profil-là. Le fait déjà d'installer le club en Ligue 1, grâce notamment au travail du président et de Lorenzi, déjà c'était ça la performance. Mais une fois qu'on avait dit ça, bon ok, ça faisait un club de Ligue 1qui connaissait parfois, je répète la bonne petite période, mais sinon après, non, après c'était un club qui était destiné un peu à souffrir en bas du classement. Il y a un petit stade sympa là avec le petit cop derrière le but, les mecs à la fenêtre, mais bon tu vois c'est champêtre quoi. On n'est pas dans un gros club, on n'est même pas dans un gros club dans la région en Bretagne parce que Rennes écrase un peu tout dans le coin. Même si bon bah, cette année vous êtes largement au-dessus, mais on va dire qu'il y a des clubs. Même Lorient ces derniers temps était donné devant. Même si tu vas par là, vos faux amis de Guingamp ont gagné deux Coupes de France sur les 10 dernières, non pas 10 dernières années, sur les 15 dernières années. Lorient, dont on a beaucoup parlé, époque Gourcuff, époque même Le Brice l'année dernière. Mais Brest, non, c'était jamais évoqué, on n'en parlait pas de Brest. Moi, les seules fois où je suis venu à Brest, c'était pour les voir en Ligue 2. Je suis venu pas mal hein, en Ligue 2 chez vous, mais en Ligue 1, c'est pas un club dont on parlait. C'est dire si le travail de Greg Lorenzi a été excellent. Maintenant, je ne sais pas quelle sera la limite pour ce club parce que il n'y a pas de stade, y a pas matière à beaucoup développer. Je ne sais pas quel est le plafond de verre pour Brest en revanche. Je me demande si jamais ils vont en Ligue des Champions, je veux dire au-dessus de ça, tu peux rien faire quoi. C'est bon, t'es allé au sommet là.
Oui, c'est sûr que la problématique du plafond de verre est réelle, tout comme les soucis infrastructurels avec le stade, le fait
Ah oui.
de très probablement jouer à Guingamp va aussi poser un souci à beaucoup de niveaux. Mais comme tu l'as évoqué, le club s'est restructuré autour du travail de Grégory Lorenzi à partir de l'été 2016. Qu'est-ce qui fait la force de ce directeur sportif selon toi?
Une bonne connaissance du marché déjà. Ensuite, savoir exactement, tiens, c'est un gars qui est très calme, savoir ce qu'il peut dépenser, pas dépenser. Il a la confiance du président qui le laisse bosser, qui est pas, vous avez un président qui est pas fou, parce qu'il faut quand même savoir que beaucoup de présidents dans le foot sont fous. Dès qu'il y a de la lumière, c'est en flammade complète. Et là, lui, il reste à sa place, il laisse bosser Greg Lorenzi, qui prend les décisions. Et déjà, c'est une grande force. Parce que quand il n'y a pas d'interférence, déjà tu peux travailler. Après, c'est toi qui payes, qui passe à la caisse pour savoir si tu as bien bossé ou pas. Et ben, alors il me dit, c'est ça. Il peut passer à la caisse, il est tranquille. Il sait qu'il a bien bossé. Il y en a d'autres. Pendant longtemps, on parlait de Flo Maurice comme d'un bon directeur sportif. Quand tu vois ses choix, mais après, est-ce qu'il a fait des choix complètement libres? Est-ce qu'il a été mis sous pression à droite à gauche? L'entraîneur, c'est pas lui qui l'a choisi. Et, oh, voilà. Là, on sait que il y a un homme qui dirige, qui choisit, c'est lui.
On entend justement beaucoup de sollicitations probables le concernant à l'heure où beaucoup de directeurs sportifs vont changer dans énormément de clubs. Est-ce que tu lui connais, est-ce que tu lui vois une certaine ambition, est-ce que tu le sens en capacité de gérer des projets avec plus d'ambition?
Comment veux-tu qu'il ne regarde pas? Dans le foot, c'est la réalité, hein. Que ce soit joueur, entraîneur, directeur sportif. En plus, maintenant, il y a un vrai marché des directeurs sportifs. Ça n'existait pas il y a quelques années. Comment veux-tu qu'il ait pas, enfin, je sais pas s'il en a envie, je peux pas parler à sa place, mais si t'as un gros club qui vient le voir, qui lui dit chez nous, tu vas gérer ça, 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 c'est un défi, c'est une ambition, c'est logique. C'est logique. Et évidemment qu'il va être démarché, surtout si, j'en sais rien, Guidolfi part de Nice ou tel club a tel projet. Bien sûr que ça va être quelqu'un qui va intéresser les gens, évidemment. Après, est-ce qu'il va partir dès cette année? J'en sais rien. Mais ce sera une grosse perte, c'est sûr. Enfin, plus qu'une perte, ce sera catastrophique pour moi, d'ailleurs.
Je reviens un petit peu sur ce qu'on a évoqué au début de l'émission et à la personnalité notamment d'Éric Roy. C'est quelqu'un qui a un parcours atypique avec beaucoup de postes occupés dans le monde du football français. Éric Roy, tu l'as beaucoup côtoyé, je crois. Est-ce que c'est quelqu'un dont je dirais la résilience à vouloir occuper ce poste d'entraîneur t'a paru surprenante? Alors, on sait que pendant de longs mois, beaucoup de gens étaient sceptiques, notamment lorsqu'il a débuté ici à Brest. Comment est-ce que tu as perçu cette évolution et est-ce que tu as pensé que c'était possible pour lui de retrouver un banc avant l'heure brestoise?
Alors franchement, Eric, ça a été une vraie surprise parce que bah même, bon, je le fréquentais pas tous les jours quand même, mais on a un peu bossé ensemble, je le connaissais un peu. Il est arrivé même qu'on joue au poker ensemble à distance. Je ne pensais pas qu'il voulait être entraîneur. Je ne le savais pas à ce point-là. J'ai été hyper étonné. Moi, je pensais qu'il voulait être directeur sportif. Je sais pas, comme il donne l'impression, tu sais, il est toujours un petit peu élégant, un petit peu distant, comme ça. Je ne voyais pas vouloir mettre les mains dans le cambouis. Tu vois, je pensais plutôt que c'était celui qui allait dessiner les voitures plutôt que le mécano, tu vois. Et quand d'abord il a œuvré pour retrouver un club et je ne le savais pas, et la passion qu'il a mis dedans et en fait de dire ensuite le si c'était ça que je voulais faire, ça a toujours été ça que je voulais faire, eh ben j'ai été étonné. J'ai été étonné. Moi je pensais pas. Moi je pensais qu'il voulait faire d'autres choses, que consultant ça lui plaisait. Que directeur sportif, il avait aimé, il avait envie de trouver un poste là-dedans. Mais vraiment, entraîneur, c'était le dernier truc auquel je croyais qu'il voulait se confronter comme métier. Voilà. Mais peut-être que les gens l'ont pas assez su et que c'est pour ça aussi qu'on lui a pas donné de poste avant, quoi. Est-ce qu'il le disait assez? J'en sais rien. C'est bizarre.
Oui, c'est la cruauté de ce milieu sans doute très concurrentiel. Il a été élu meilleur entraîneur de Ligue 1 lors des trophées UNFP. Alors on connaît les modalités de ces votes, mais est-ce que selon toi c'est une récompense légitime et qui a une valeur?
Bah, quelle est une valeur, vu que je dis toujours que la récompense UNFP, c'est du bidon. En tout cas, là, ça a une valeur. Ouais, évidemment, c'était impossible de donner ça à quelqu'un d'autre qu'à lui.
Comment est-ce que tu perçois là aussi le futur pour lui, à ton avis, est-ce qu'il est pleinement ancré dans le projet brestois pour encore de longues années, ou bien est-ce que là aussi, le fait d'avoir certainement des sollicitations au vu de la qualité de son travail va peut-être perturber l'équilibre du SB29 et le voir voguer vers d'autres horizons?
Malheureusement, hein, c'est toujours le problème des clubs comme les vôtres. Hein. C'est que quand quelqu'un fait quelque chose de très fort dedans, évidemment qu'il va être sollicité. Comment il ne le serait pas sollicité? Et peut-être qu'évidemment, il aura envie, il estimera qu'il a perdu du temps dans sa carrière et qu'il a envie d'aller se confronter à un gros dossier. Et oui, c'est fort possible. C'est fort possible. Si tu me dis aujourd'hui, tu as envie de parier qu'il va rester longtemps à Brest, bah, je vais te dire non, je vais pas parier ça, non.
On l'imagine effectivement. Si on revient quelques instants sur le dernier match à
Après,
disputer.
si votre président, il veut mettre plein d'argent, il veut faire un projet façon Atalanta ou un truc comme ça, peut-être que Eric Roy, ça deviendra le Jean-Pierre Gasperini de Brest. Mais après, c'est le président aussi qui doit savoir où il veut aller. Parce que c'est une affaire de finances, c'est une affaire de projet à développer. Je sais pas, j'en sais rien. Moi, si le président, il dit demain, on va construire un stade, on monte un gros projet, j'ai des investisseurs, on va être le club fort de la Bretagne, bah, dans ces cas-là, tu retiens Lorenzi, tu retiens les joueurs, tu retiens Eric Roy, et tu fais un gros projet, et tout le monde reste pour 10 ans. Mais c'est le président qui a ses réponses, en fait. C'est pas nous qui pouvons avoir ses réponses. Nous, à ce stade, si on parle pas au président et s'il nous donne pas ses intentions, je crois pas qu'il soit milliardaire, votre président. On le sait pas, en fait. On ne sait pas, c'est lui qui a ces réponses-là. À ce stade, nous, avec les infos qu'on a, les gens partent, quoi. Ils ne peuvent pas rester, parce qu'on ne peut pas les retenir.
Oui, pour apporter plus de stabilité, il faudrait un changement de cadre total qui visiblement n'est pas à l'ordre du jour, notamment par rapport à ce qu'on entend sur la problématique du stade, même si on sait qu'il va y en avoir un nouveau. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un aspect de préparation mentale, de solidité en fait à l'intérieur du groupe qui a été important? Est-ce que pour toi, ce qui fait la force de Brest, c'est aussi le caractère?
Non, mais que l'équipe ait du caractère cette année, oui. Bon, attention sur la fin de saison quand même. Quand les matchs sont devenus un petit peu tendus, ça a été un peu plus compliqué. Mais bon, non, là, sur ce point, je vois plus le collectif. Justement, je trouve que parfois, quand ça devenait un petit peu tendu, bah, regarde ce qui s'est passé à Lyon. Le match contre Metz, c'est assez étonnant aussi. Hein. Se
Contre
balader à ce
Monaco aussi,
point-là
avec beaucoup de nervosité contre Monaco.
Bah ouais, et puis relâcher les choses et tout. Non, non, je pense que là, justement, il faudra beaucoup progresser.
On a parlé tout à l'heure de ton ressenti général sur ce qu'était ce club historiquement. Est-ce que tu peux nous raconter un souvenir ou une anecdote que tu as en rapport avec le club de Brest ou la ville peut-être?
J'ai pas une anecdote en particulier. Je sais que c'était sympa quand on venait. Alors, le seul truc, c'est que ça me paraissait tellement loin à chaque fois qu'on venait pour faire la Ligue 2. J'ai l'impression que c'était long, 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 parce que d'abord c'est le TGV, puis après ça va à 2 à l'heure. Déjà que Guingamp, ça me paraissait loin, mais pour arriver là-bas, j'avais vraiment l'impression que c'était coupé du monde, quoi. Et après, j'aimais bien l'ambiance un peu famille au stade. Quand je venais, moi je crois que ça devait être. J'ai vu Alex Dupont, entraîneur. Grougy devait être encore joueur. Corentin Martins devait être le directeur sportif. Et non, j'étais toujours très bien accueilli. Il y avait comment s'appelle le gars des médias là chez vous là? C'est Jackie,
Jackie Le Gall, Jackie Le Gall.
voilà, qui était là, qui est un peu l'institution locale. Non, c'était chouette. Bon, après, je te dis pas que le climat m'emballait des masses, hein, c'est pas vraiment ma culture, mais c'était des bons moments, quoi. Ça me paraissait toujours un petit peu tranquille. J'aimais bien la tribune derrière le but. Ça, je trouvais que ça avait un caractère, ce truc-là, avec le toit, là. Ça, j'aimais bien. Mais à
Oui.
l'époque, il n'y avait pas beaucoup de monde, hein. C'était
Ouais,
pas la
si.
grande folie, hein. C'était pas, là, il y a du monde maintenant. Ça a bougé. Vous avez ramassé pas mal de jeunes et tout. À l'époque, c'était tranquille, hein. Même derrière les buts, bon, il y avait un peu d'excité, mais c'est pas le feu, hein.
Après, faut
Mais
se.
ouais, c'était, ah oui, c'est le stade en ville et tout. Je me souviens, la rue. Oui, maintenant, je remets un peu parce que ça date, mais. Ouais, c'était vraiment champêtre. C'est un peu ça l'idée que ça me faisait, quoi.
Ouais, une sorte de rusticité populaire un peu qui caractérise ce stade.
Exactement.
Qui est souvent chaud. Après, il faut quand même rappeler, sans vouloir être chauvin, qu'il y a eu une ferveur populaire qui était assez notable dans les années 2000, au moment où le club a vécu des périodes compliquées aussi. Hein. Après, c'est sûr que y a eu un moment où le stade était plutôt vide en Ligue 2, mais notamment au moment des remontées en fait dans l'ère professionnelle, il y a quand même eu toujours une dynamique populaire. On va conclure rapidement cet entretien avec toi. On te remercie d'avoir accepté notre invitation. Juste un dernier mot sur l'actualité un peu générale. L'équipe de France, Didier Deschamps qui a dévoilé sa liste. Tu as eu l'occasion d'en parler dans l'after. Simplement en quelques mots, dans quel état d'esprit tu abordes l'Euro et la forme de nos Bleus?
Écoute, on a l'habitude de dire que les Bleus sont à chaque fois favoris. On a commencé à prendre cette habitude-là là, depuis une dizaine d'années. Là, je sais pas. Il n'y a pas énormément de joueurs en forme, s'il faut dire la vérité. trouve qu'il y a plus de, il y a plus de joueurs sur lesquels on se pose des questions, sur lesquels on a des certitudes. Mais comme à chaque fois, cette équipe, elle est surprenante et elle parvient, grâce à un mental hors norme, à être au-dessus, bon, on va continuer d'être confiant. On va continuer d'être confiant, mais bon, effectivement, il faut que Mbappé soit en forme. À la Coupe du Monde, on rappelle que c'est lui qui a porté l'équipe, hein, quand même. Donc, il faut vraiment qu'il soit en forme, parce qu'après, sinon, les autres, c'est pas la grande folie. Hein, milieu de terrain, la créativité, bof, la défense, beaucoup de gens hors de forme. Franchement, le premier tour, il va falloir être attentif à comment ça va se passer, quoi. Parce que je suis pas, je suis, je... en fait, je suis confiant par habitude. Avec une perte de lucidité. Cette équipe est tellement surprenante, elle a tellement l'habitude de nous de gagner, mais entre les derniers matchs amicaux, la forme de certains, je me demande si c'est pas un peu déraisonné, quoi. Parler sérieusement, je suis pas sûr qu'on soit favori.
Oui, on sent une disparité de forme physique, un manque de qualité technique qu'on a pu observer notamment contre l'Allemagne, mais il faut peut-être continuer d'avoir entre guillemets la foi dans la capacité de résilience des hommes de Didier Deschamps en dépit d'une qualité de jeu qui est souvent médiocre. On suivra ça et on écoutera l'after comme depuis 18 ans sur RMC. Merci beaucoup Daniel Riolo d'avoir accepté notre invitation.
Merci à toi, merci
Avant
à
du
vous,
Stade
à
Brestois.
bientôt.
Merci Daniel, à bientôt.
Ciao.